aborder ce sujet qui nous préoccupe, l'humanité. Je voulais commencer en parlant de la définition qui était donnée par le maître de maître de mon maître sur l'amour. Il a dit, aimer, c'est vivre. Aimer, c'est vivre. Aimer, c'est vivre. Si on n'aime pas, on ne vit pas. Tout être vit est sensible à l'amour. Tout être. Si on n'aime pas, on ne vit pas. Si on démarre la discussion à partir de ce point de vue-là, on peut rendre le mot, souvent on l'utilise en pleine façon, en français, amour, et peut donner beaucoup de richesse, beaucoup de richesse. C'est-à-dire, et c'est comme la force de vie. Comme le début de la vie, comme la continuité de la vie, comme la fin de la vie, tout est amour. Mourir, c'est aussi un acte d'amour. Accepter de donner la place à l'autre, c'est l'amour. Le geste indien de montrer l'amour, c'est comme ça. C'est... Nous sommes unis dans le cœur et aussi je prends moins de place, je me réduis pour accueillir l'autre. Donc aimer, c'est aussi disparaître. Aimer, c'est aussi mourir. Aimer, c'est vivre et aussi mourir pour l'autre. Tu m'entends?
Oui, très bien.
Allez, que je augmente le... Non, tu vois bien? Qu'on n'aime pas, on n'écoute pas. Aimer, ça veut dire écouter aussi. Pour écouter, on a besoin de se taire. Si on est rempli de plein de choses dans la tête, on ne peut pas aimer. Aimer, c'est aussi vider la tête. Aimer, c'est aussi effacer son ego. L'ego, le remède, l'antidote de l'ego, c'est l'amour. Plus qu'on aime, l'amour augmente, l'ego diminue. Les peurs disparaissent aussi. L'amour est inversement proportionnel à la peur. Quand il y a plus de peur, il y a moins d'amour. L'ego, la peur, la souffrance, tout est lié. Quand on aime, la souffrance devient acceptable, capable de souffrir. Donc l'amour, même on utilise deux mots, aimer et amour, les deux parlent même chose. Où il y a disparition de toute frontière. Donc yoga devient amour. L'art d'aimer, c'est yoga. Parce que yoga, c'est union. Partout où il y a les schismes, fractures, fragmentations, il y a le manque d'amour. L'amour apparaît, les fragments se ressoudent, le sens caché apparaît. En fait, qu'est-ce que c'est qui donne le sens? C'est l'amour. Donc, quand l'amour arrive, le sens apparaît. Quand l'amour disparaît, le sens disparaît. Les individus seuls disparaissent aussi quand l'amour disparaît. Deux individus, quand il y a l'amour, ça fait une famille. L'amour est l'énergie primordiale. Tout est né de l'amour. Qu'est-ce que c'est avant la création? Qu'est-ce qu'il y avait avant la création? Au commencement.
L'amour.
Au commencement, pour Saint Jean, au commencement était la parole.
Oui, le verbe.
Et dans le Genèse, au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? La première phrase de la Bible.
Le souffle. L'amour.
Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc Dieu, au commencement. Donc qu'est-ce que c'était au commencement? C'était amour. Donc amour était Dieu. Donc si on peut accepter une définition valable de l'amour, c'est l'amour qui crée, l'amour qui fait naître l'univers, vous, moi, tout le monde. Donc, c'est l'amour, c'est une force de la création. L'amour, c'est pleine sagesse aussi. Parce que la création n'est pas dénuée de la sagesse, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est, l'amour et la sagesse, c'est toujours ensemble. On ne peut pas séparer la sagesse et l'amour. L'amour, c'est l'éveil. Parce que la sagesse ne peut pas exister quand on n'est pas assez éveillé. Donc tout effort pour s'éveiller la conscience, c'est un acte d'amour. Accéder à l'amour, c'est réveiller. Méditer, c'est aimer. Pratiquer le yoga, c'est aimer. Donc tous les gestes spirituels, c'est pour accéder à l'amour véritable. L'amour exprime en mille façons. Et quand, entre deux individus, quoi qu'il soit le nom qu'on donne, c'est toujours l'amour. Mais qu'est-ce qu'on aime à travers l'autre? Toujours soi-même. Parce que c'est pas l'autre que nous cherchons. On se maquille, on fait des bijoux, on met des bijoux. Mais ce n'est pas pour le bijou qu'on met du bijou. Parce que ça nous fait du bien. On aime nos enfants. Ce n'est pas pour les enfants qu'on aime les enfants. Parce que ça nous donne de la joie. Donc on aime personne pour la personne. Parce qu'on s'aime. Cet amour que nous voulons diriger vers soi est tellement difficile parce qu'on ne se connaît pas. On cherche un reflet. C'est à travers l'autre qu'est-ce qu'on cherche en soi-même. Donc toute quête de soi, c'est un acte d'amour aussi. Donc quand on aime quelqu'un, se trompe pas. On s'aime que soi-même. Qu'est-ce que c'est si important l'amour? Parce que l'amour est inséparable de la joie. La joie et l'amour, l'harmonie, la paix, tout sont des synonymes. On ne peut pas séparer de l'un à l'autre. C'est pas Dieu qu'on aime, qui nous aime. C'est l'amour qui est Dieu. C'est dans tous les temples. Qu'est-ce qu'on adore? Si on n'adore pas les dieux, on adore l'amour. Il y avait une époque en Inde, le peuple était innocent, pas été corrompu. Donc ils ont créé des temples pour adorer l'amour. Tous les temples. Hindous sont c'est des temples où on adorait franchement l'amour. Franchement l'amour. Mais c'est pas, on ne parle pas de l'amour avec un grand A. L'amour entre un homme et une femme qui était symbolisé avec un Shivalinga. C'est la source de la vie. Mais c'était pas le sexe qu'on adorait, on adorait l'orgasme qui était le début de chaque vie. Une expérience extatique. Donc l'amour, c'est la joie intense. Donc tous les temples étaient le lieu d'adoration ou rappel de notre propre source, Donc, d'où on vient? Si on dit d'un Big Bang, c'est dommage. On est né d'une explosion, une bombe. Est-ce que nous sommes issus d'une bombe? Ou une expansion d'amour? Une expression d'amour. Nous sommes des expressions de l'amour. Nous sommes des rayons de l'amour. Chacun, chaque être. C'est une manifestation de l'amour. Primordial. C'est ça, l'amour. L'amour, tout est amour. Tout se manifeste en tant que l'amour. La terre, c'est l'amour. Le soleil, c'est l'amour. La pluie, c'est l'amour. La rivière, c'est l'amour. Le souffle, c'est l'amour. Surtout, tout chaque fonctionnement de nos cellules, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Si vous voyez autre chose que de l'amour, c'est votre propre imagination. Vous êtes en train de poser des questions, comment je suis tout ça? Oui, parce que parce que je cherchais. Je cherchais l'amour, je cherchais partout, j'ai pas trouvé.
J'ai pas compris, t'as pas trouvé, donc t'as trouvé tout ça.
Non, je cherchais partout l'amour, mais je n'ai pas trouvé.
C'est pas mal ça. C'est comme le poisson. C'est comme le poisson qui demande ce que c'est la mer. Qui cherche partout.
Non. Non, non, le poisson qui voulait se doucher. Se baigner.
Oui, je piscine.
Comment expliquer le passant? Comment se baigner? Oui, j'ai cherché partout la main, je n'ai pas trouvé. Plus que j'ai cherché, je suis devenu misérable. Un jour, c'est mon maître, je dois le citer parce que c'est, il n'y a pas une autre personne qui m'a dit. Mais dit, un jour, ton problème, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas, c'est parce que tu ne ressens pas. Après, je me dis, mais là, problématique, c'est pas chez l'autre, hein, le problème c'est chez moi. Oui, j'ai trouvé le problème était chez moi. J'arrivais pas en fait à reconnaître les tonnes d'amour qui venaient vers moi. En fait, je cherchais enfin certaines formes d'amour que je décidais, et avec ça, je regardais, mais ça ne venait pas. En fait, c'est ça le problème. Il fallait que je révise les conditions que je m'imposais moi-même. La forme, les couleurs, la taille, tout ça. C'est ce que j'ai imposé. Il fallait que je révise. Que, pas seulement réviser, mais condamner, rejeter, jeter. Donc, je deviens entièrement vide pour recevoir. Ça m'a amené après sur un mot qui est encore plus fort que l'amour. c'est la gratitude. Plus que je entrais dans la gratitude, plus que l'amour devenu plus fort. Après, ça est devenu un art de vivre. Et j'ai mis ça dans notre règle de la vie. Si on n'aime pas, on ne fait pas. Refuser de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Autrement dit, aimer soi-même pour ce qu'on est en train de faire. Vous comprenez ? S'aimer. Je suis en train de faire quelque chose. Imagine, je fais le ménage. Je fais quelque chose. Aimer moi pour ce que je suis en train de faire. Donc, c'est diriger l'amour. Remercier moi-même pour ce que je fais, ce que je suis en train de faire. Faire tout dans l'amour. Ça devient un art de vivre, ça devient une philosophie. Si on n'aime pas, on paie, on ne fait pas. Faire tout dans l'amour.
Donc, l'amour, c'est une action ou c'est quelque chose Mais quand tu parles, des fois, c'est un peu comme une action. Des fois, c'est quelque chose de général. Donc, pour moi, personnellement, le reste, je ne sais pas.
Une attitude. C'est une attitude.
Attitude individuelle.
Individuelle.
Donc, par exemple, de création de monde et tout, c'est de l'attitude de qui?
Non, je parlais de là-haut et puis je suis venu à l'individu.
Ah oui.
D'accord, parce que
j'ai
défini l'amour dans sa totalité. Après, il faut qu'on arrive à le vivre. En fait, c'est ça qu'on a besoin. Donc, c'est la définition, tout ça, c'est, on peut l'oublier. Ce qu'on a besoin, c'est quelque chose pour pouvoir mettre en application dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque pensée. C'est une attitude. C'est une façon de s'orienter vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Donc, cette attitude est générée à travers la pensée non-duelle, à travers la prise de conscience d'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne vois pas autre chose que moi-même. Chaque personne que je rencontre sont des différents aspects de moi-même. Il n'y a pas de jugement. Il fait partie de moi aussi les terroristes. Donc il y a toujours une forme d'amour disponible, même pour nos ennemis. C'est une orientation. Cette orientation génère la paix intérieure, génère la joie intérieure, génère certains bien-être physique, corporel. Parce que chaque fois, si je suis devant non-amour, c'est une souffrance. Ça se manifeste dans le corps, dans les muscles, dans nos organes. L'amour aussi. C'est une façon de guérir nos maux, nos maladies. L'amour guérit tout.
Faire beaucoup de seva aussi. Faire beaucoup de seva amène de l'amour.
Seva.
Le karma yoga.
Karma yoga ou seva, c'est pour sortir de nos cercles vicieux de l'égoïsme. Certains, comme un un chemin pour aller vers l'amour. L'amour prend toute la place, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand j'aime, le je empêche l'amour. Aimez pas, mais devenez amour. L'amour prend toute la place.
L'amour... Si je tue quelqu'un, est-ce qu'il y a l'amour ou pas?
Imagine que si tu es un soldat.
Non, je tue mon ennemi.
Oui.
Est-ce qu'il y a de l'amour ou pas?
Si t'as pas trouvé d'autres moyens.
Non, mais qu'est-ce que j'ai pensé? Par exemple, tu dis, il y a l'amour remplace tout. Donc, je voulais savoir que comment on peut trouver dans cette situation-là l'amour, par exemple.
On a toujours glorifié les soldats qui sont allés risquer leur vie à la frontière pour sauver la famille, le pays, la patrie. C'était l'amour. C'était l'amour. Dans notre corps, il y a énormément d'anticorps qui travaillent sans cesse pour défendre le corps de toutes sortes de maladies. C'est de l'amour, ça. Tuer, quand on regarde d'un point de vue neutre, c'est contre la vie. Mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution? Bien sûr, si vous n'avez pas autre solution, c'est légitime. C'est pas puni, hein, dans le code pénal indien, je ne sais pas en France. Défense légitime. On peut tuer quelqu'un pour sauver sa propre vie. C'est pas puni. Il faut que ça soit clair, hein, c'est tout. Donc ça, c'est l'amour aussi. Si une mère peut protéger ses enfants en prenant des armes, ça, c'est de l'amour, ça. Il y a toujours... On a le droit de défendre ses propres territoires. Si on ne fait pas, ça, c'est non-amour. Imaginez quelqu'un qui franchit votre porte, rentrer à l'intérieur de votre maison, que vous ne faites rien, ça c'est non-amour.
Tu parles au sens de quelqu'un qui rentre pour faire une agression.
Oui, bien sûr.
Parce que sinon la porte elle n'est pas à nous, mais c'est plutôt le fait de vouloir agresser. Enfin,
oui, c'est un agresseur qui arrive. Si vous ne défendez pas votre territoire, c'est non-amour. Parce que notre vie a de la valeur. Ce n'est pas plus que l'autre.
Des fois, par exemple... On est en colère. Notre ennemi n'est pas en colère, en fait. On est en colère et on se cale à ce quand on tue, quand on le tue, ou je sais pas.
Colère, c'est pas quelque chose de positif. Parce que colère, ça modifie notre intelligence. Ça empêche de voir clair. Dans le Mahabharata, il y a un moment donné, Karna veut battre. Donc, il ne peut pas sans donner la permission. Donc, Bhishma devait donner la permission. Donc, Bhishma demande à Karna d'entrer dans la guerre sans colère. Il ne faut pas agir dans la colère. Parce que ce n'est pas vous, c'est la colère qui agit. Colère est opposée de l'intelligence. Colère, il faut que ce soit dans la bonne place. C'est comme le feu.
Mais sans colère, on ne peut pas faire quelqu'un mal. Par exemple, si quelqu'un rentrait dans notre maison pour tuer, et sans colère, on ne peut plus toucher l'homme. notre ennemi. Il y aura certaines colères et après on peut le peut-être tuer ou battre, je ne sais pas. Sinon on est complètement sur
le... Ce que tu dis, c'est vrai.
C'est possible, mais oui, en réalité, mais je ne sais pas. Imaginez, mais c'est... en réalité, c'est... on n'est pas du tout colère. Si quelqu'un rentre, est-ce qu'on peut tuer? C'est impossible.
En tant que émotion, la colère a certaines forces. Parce que colère, c'est adrénaline. Quand il y a l'adrénaline, et on va dans le corps, plus de sang qui va venir vers les jambes, vers les mains, et moins vers la tête, moins vers le intestin. C'est parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour le combat. Donc dans des situations comme ça, ce que Kunchak dit, c'est vrai que colère, émotionnellement, ça donne de l'énergie pour agir. Dans un contexte plus philosophique, quand il n'y a pas de danger imminent, et qu'il y a une action qu'on doit mener contre l'agresseur, ça c'est raisonné. C'est pas avec colère. Parce que la colère, ça ne peut pas durer longtemps. C'est pour ça que la guerre est moins intéressante que la paix. On ne doit pas faire la guerre. Parce que la guerre, on ne peut faire que très peu de temps. Mais la paix, on peut agir pour la paix pour longtemps. Beaucoup d'années, toute une vie, on peut agir pour la paix. Vous comprenez, la force de la paix est mille fois plus que...
Mais excuse-moi, je reviens sur l'exemple de quand tu défends ton territoire, si j'ai bien compris, tu peux avoir un peu de une certaine forme de colère qui est au service de l'amour.
Oui, bien sûr, bon. C'est toujours.
Et ça, on l'appelle quand même un peu, ça s'appelle quand même de la colère.
Oui, moi je voulais simplement dire que quand on est dans un état colérique, normalement on n'a pas la vision claire. Mais dans des questions telles que on a évoquées, là, on n'a pas le temps de réfléchir.
Ça répond peut-être à ta question.
Non. Il faut garder la colère. C'est important d'avoir la colère.
La colère, ça m'a fait penser à une question qui n'est pas pour le sujet là, mais qu'on pourrait traiter un autre soir. Ça me fait penser à la haine dans les trois poisons, l'ignorance et puis le désir. Ma question, c'est, vu que le monde il a été créé quasiment... Tout est parfait dans la création. Pourquoi ces poisons existent? Mais ce sera pour une autre...
Non, ce n'est pas très compliqué, parce que c'est une question qu'on avait toujours posée. Parce que tout ce qui est... Quand tu dis parfait, tout est parfait, il n'y a que la perfection de l'instant. Parce que s'il y a la perfection, la vie disparaît. Vous êtes d'accord avec moi?
J'ai pas compris s'il y a la perfection ou l'imperfection.
La perfection.
L'imperfection.
L'imperfection. La perfection, c'est la mort. Perfection, c'est la mort. Donc, par contre, par exemple, ce moment-là, ce que nous vivons, c'est parfait. Ça ne peut pas être autrement. Nous sommes dans cet instant ultime. Ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas autre solution que ce qui est en train de vivre. Ça, c'est parfait. Il y a cette forme de perfection existe. Après, pour que la vie continue, il faut qu'il y ait une imperfection. C'est-à-dire, pour marcher, on a besoin de mettre notre corps dans certaines disciplines. Donc, la vie, c'est un mouvement vers la perfection. Ça finit dans la mort. Et c'était toujours comme ça. Pourquoi il y a ça? Tout ça, c'est problème humain. L'humanité a fait une sorte de fausse route. Je ne sais pas pourquoi, quand. Quelquefois, je me dis, c'est dans ce scénario cosmique qu'on a besoin d'un terminateur, une espèce terminateur. Ce que je dis, c'est très, 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 très noir. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la fin du cycle, une espèce qui apparaît pour mettre le bordel partout. Et ça termine. Pour que le cycle recommence. Et ça, c'est pas moi qui ai inventé, mais c'est dans la mythologie hindoue, c'est comme ça. Et il y a quatre yugas, on avait discuté l'autre jour. Krita Yuga, peut-être je vais traduire. Un âge d'or, tout est parfait, tout va bien. Tout le monde était connaisseur de la vérité. Après, on passe à une deuxième époque, un âge de l'argent. On est un peu plus dans la dégradation, on s'éloigne un peu plus. Et puis en troisième époque, un âge de cuivre. Et puis nous sommes dans l'âge de fer. Un âge de colère, un âge de confusion, un âge de toutes sortes de conflits, guerres. Et puis, ça recommence. C'est une vision indienne que je ne sais pas si on ne peut pas le scientifiquement vérifier. C'est comme ça. Il y a eu toujours des créations, destruction. Ce n'est pas la première fois. Donc, c'est le grand roue de samsara. Ça donne en fait une possibilité pour chacun sortir de cette répétition infernale. Ça, c'est l'éveil. Sortir de l'espace-temps. Ça, c'est possible par la méditation. Pourquoi c'est là? Je ne sais pas, c'est mystérieux quand même. Mais c'est dommage. Il y a dans nos ADN déjà programmé pour qu'on vieillit, on meurt. Vous savez ça, hein? C'est-à-dire la mort, la dégradation du corps est programmée du départ. Donc pour
l'univers,
oui, c'est pareil. C'est pareil. On a compris aussi les protons se dégradent. Chaque particule aussi a une certaine durée de vie. C'est disparu. Donc l'univers aussi, il ne peut pas rester pour toujours. Donc la disparition est aussi programmée, qui est dans l'ordre des choses. Donc je trouve que c'est bien, parce que la naissance, on aime. Donc pourquoi pas aimer la mort aussi? Ça fait partie. C'est dur, mais ça fait partie. Dans le Mahabharata, à un moment donné, Kunti, elle dit: si tu as peur de la mort, pourquoi tu acceptes la vie?
C'est imposé.
Pas, on n'a pas choisi.
Oui, c'est imposé. C'est vrai. La vie, ce n'est pas notre choix.
Non, on ne te demande pas. Personne ne demande de continuer à vivre. Tu peux arrêter quand tu veux. Tu peux mourir quand tu veux.
Oui, mais on a peur de mourir.
Ah, ça c'est autre chose. Mais chaque instant, je décide de vivre. Si je ne veux pas continuer, juste un petit truc là, un petit cachet, un morceau de corde, c'est fini quoi.
Mais donc, non, mais là c'est faire un acte.
Oui, faire un acte, bien sûr.
C'est choisir la mort.
Bien mais sûr.
Si tu n'acceptes, tu n'acceptes pas la mort, donc tu acceptes la vie. Et pour ne pas accepter la vie, tu devrais choisir la mort. Mais on a dit que tu n'acceptes pas.
C'est ça.
Pas
il y a cette problématique. Chaque instant, je choisis de vivre. La vie, nous avons choisi de vivre. Chaque fois que je me nourris, je choisis la vie. Chaque fois que je respire.
Parce qu'on ne veut pas mourir.
Ouais. Donc je choisis. Je choisis la vie. C'est pour ça que je respire. Rien n'est imposé.
Non. Le début, par exemple, on est né. On ne voulait pas naître. Ce n'était pas notre choix. Par exemple, on est venu dans le monde. Non. C'était pas notre choix.
Non. Mais comment tu peux savoir que c'est pas notre choix? Ça se trouve,
tu as
choisi.
Là, c'est difficile, bien sûr.
Mais on sait pas, quoi.
On sait pas.
Il y a un petit éclaircissement nécessaire sur cette réflexion. à tort, on dit « je suis né ». Mais ce moment de naissance, c'est faux. Parce que quel est le moment que nous sommes nés?
Donc il y a séparation des deux cellules, enfin, il y a deux cellules qui se créent.
Non, c'est même, même avant, donc j'ai été fait partie du corps de mes parents. Ouais. J'existe depuis le début de la vie. Il n'y avait pas un début. J'existais toujours. Donc il n'y a pas de naissance. Je n'ai pas un point de début.
Une incarnation.
Oui, ça voilà, c'est mille fois, mais c'est tout.
C'est uniquement ça.
Physiologiquement, j'étais toujours. J'étais la vie. Mais bien sûr, je me poussais un petit peu à côté des corps de mes parents. C'est une juste distinction, quoi. Donc, bien sûr, s'il n'y a pas de connexion avec les cordes ombilicales, mais c'est, maintenant, je peux me nourrir différemment. Mais c'est toujours continuité de même vie. Il n'y a pas de naissance. S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Je suis la vie éternelle. Mais nous jugeons par l'extérieur. La mort, littéralement, ça veut dire arrêt. Il n'y a rien qui s'arrête. Tout est en mouvement. Dans le Mahabharata, il y a un chapitre costaud sur la mort. Je vous invite de l'écouter un jour, si vous avez écouté ou lire. Ouais. On pose cette question à la personne en train de mourir. Qu'est-ce que c'est la mort? Mais tout ce que j'ai dit, ce n'était pas ce qui était décrit dans le Mahabharata. Mahabharata dit que la mort, c'est la négligence. La mort, c'est une blague. C'est tout simplement, on imagine, c'est comme un tigre dans le brousse qu'on a peur. En réalité, il n'y a pas. L'homme, l'individu qui se secoue de toutes ces poussières d'ignorance, il comprend que la mort n'existe pas. C'est la faute des poètes, des théâtres, des historiens. Et ils vont sans cesse en train de dire de cette guerre, combien de morts. On parle de morts comme dans le sport, combien de balles, combien de goals, combien de points qu'on a gagnés. Nous sommes sans cesse inondés par la peur de la mort, un côté par les politiciens, les rois, l'autre côté par les religieux. Et tout le monde cherche l'argent sur la mort. Qu'est-ce qu'il dit le politicien? Si tu ne payes pas, je te tue. Qu'est-ce qu'il dit le religieux? Si tu ne payes pas, tu es foutu après la mort. Et tous les deux, en fait, cultiver la culture de la mort. En fait, la mort, c'est une blague. Les enfants, ils savent.
Est-ce que tu as étudié des choses sur les gens qui ont eu des expériences où le cœur s'est arrêté?
Les MDO. Oui, il y a plein de livres en français.
Du coup, ils décrivent ce qu'ils ont vu dans cette phase jusqu'au moment où ils ont été réanimés. On parle de lumière, de... Ouais. Et là, c'est pas pour dire la mort existe ou pas, mais c'est plutôt pour dire cette étape après l'arrêt du cœur.
Et une personne, donc, là, souvent c'est sur dans l'hôpital et dans le table d'opération. La lumière, c'est, il y a une lampe très très forte. au bout des tunnels, une forte lumière. Mais
j'ai dit lumière, mais il n'y a pas que ça, parce que les descriptions des gens sont quand même très précises.
Quoi. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est, je commençais à parler de ça parce qu'il y a cet argument aussi très fort. Ça existe parce que pour la science, parler la vie après la mort, c'est impossible. Pour la science, la conscience, c'est qu'un résultat de certains contextes, situations physiologiques, chimiques, etc. Mais en tant que point de vue yogi, si je parle, si je réagis par rapport à cette expérience, c'est une vérité.
Quelle est la vérité ?
C'est-à-dire, quand on meurt, c'est progressif. Les cinq sens, progressivement, on va perdre d'abord l'odorat, après on va perdre le goût, après on va perdre. C'est une progression. Le toucher, on commence à sentir moins, et après on commence à, la vision, on commence à plus voir, et après le toucher. Le dernier, c'est l'œil. C'est pour ça que dans les accompagnements des mourants en Inde, on a des traditions de lire les textes sacrés tout au long de la processus pour que la personne arrive à diriger son prana. On est juste en train de lire là aujourd'hui. Pour que le prana, ça veut dire l'énergie de la vie, pour qu'il ne parte pas vers un autre corps, qu'il sorte de cette habitude de réincarnation. En fait, c'est une habitude. Entrer dans un autre corps, et encore, et encore, et encore. C'est une habitude. C'est pas conscient. C'est inconscient.
Donc, mais la disparition des cinq sens, ça se fait rapidement, non ?
Très progressivement.
Ça peut...
C'est en fonction de la mort, quoi. Oui. C'est vrai que si c'est un... C'est brutal, bien sûr, mais c'est très progressif. On va sentir donc la personne. C'est comme dans la méditation, la personne qui meurt, il va voir qu'il est en train de quitter son corps. Il va se dire, c'est drôle ce moment. Il sera conscient de sa propre mort. Il va se dire, tiens, je suis mort. On a le temps. On a le temps très bref pour réaliser que je suis mort et rappeler la durée de la vie. Rappeler tout ce que vous avez fait de début jusqu'à la fin, comme ça. Nous avons des textes qui décrivent bien ça. Et c'est vrai aussi, en un instant, tout se déroule d'une façon très rapide. À ce moment-là, selon le yoga, une sorte de miniaturisation de tout ce que nous avons fait, une entité qu'on appelle un corps causal, c'est en fonction de tout ce que nous avons fait, va décider, en fonction de taux vibratoire du moment de décès, nous allons choisir les parents. Vibratoire, vraiment vibratoire. Ça se fait d'une façon énergétique. C'est pas je choisis. C'est en fonction du contenu vibratoire de cette vie. Automatiquement, nous allons prendre naissance dans un autre famille, un contexte, qui est propice pour continuer le chemin que nous avons emprunté. Ça, c'est pour le yoga brishta. Ça veut dire celui qui n'est pas réalisé dans la vie. Celui qui n'a pas arrivé jusqu'au bout de sa vie va continuer, il va choisir un contexte de vie. Il va évoluer à partir de là et il n'y a pas un instant entre les deux. Aussitôt quitter le corps, aussitôt pris un autre. C'est tout ce que je dis, c'est métaphysique, C'est pas scientifique, je n'ai pas le prouve à vous montrer. Excuse-moi.
Non, je veux dire, du coup, c'est on pourrait faire un peu le parallèle avec les bouddhistes qui se disent si j'ai un mauvais karma. Dans le niveau énergétique, en fait.
Il n'y a pas de différence entre le bouddhiste et l'hindouiste sur le processus de réincarnation, parce que c'est une idée qui est partagée par les bouddhistes, l'hindouiste, le jain et également le sikh. Ça vient d'ici, cette terre, l'Inde.
J'ai encore une question, mais je m'attends le temps. Est-ce que la réincarnation se fait à quel moment par rapport au cycle de la création des cellules? Est-ce que ça arrive est-ce que ça peut arriver à différentes phases de ce début de la vie? Ou ce début de la division des cellules?
Alors, on ne peut pas tout répondre, mais une chose qui est sûre, il y a une infinie possibilité. Cet univers nous donne une infinie possibilité des êtres. Dans mon corps, il y a des milliards de cellules. Et chaque cellule peut, si on donne suffisamment de conditions, ça va devenir un clonage, un autre individu. Est-ce que moi, en tant qu'entité, se multiplie ou une nouvelle entité a été créée? Tout ça, c'est des questions très compliquées. Mais je sais que moi, je suis une seule entité. Donc, quand chaque action se fait, il y a une réaction. Cette réaction est codifiée et enregistrée quelque part. Donc, ça devient une entité. Cette entité qu'on appelle dans le yoga, le Karana Sharira, ça veut dire le corps causal. Cette corps causal peut disparaître aussi dans l'éveil. Le jour, tous les karmas accumulés se neutralisent. Je rentre dans la diffusion avec le tout. Le tout. Le tout. Il n'y a plus de distinction, séparation. C'est tout ce que je dis, ça peut devenir clair si vous avancez dans la méditation. Parce que dans la méditation, on va comprendre qu'il y a trois corps. Le corps physique, né de la nourriture. Après, le corps subtil. Le corps subtil, c'est le corps qu'on utilise pendant le rêve. Après, il y a un troisième corps. Ce corps, il est sensible dans le moment de la méditation et aussi dans le moment de sommeil profond. C'est comme une semence. Tout un arbre peut être présent dans une petite semence. Dans ce sens-là, tous mes espoirs, désespoirs, la souffrance, le désir, tout est codifié à l'intérieur. En fait, je suis qu'une boule de frustration. C'est une énergie, la frustration c'est une énergie qui vous continuez dans un autre corps, encore expérimenter la vie, jouir de quelque chose, chercher quelque chose. Et le jour, quand je comprends qu'en fait tout ce que je cherche c'est moi-même, le désir se défait. Là le karma est neutralisé. L'individu entre dans l'état de samadhi, équilibre. Ça c'est la fin. C'est la fin de individuer. Donc, seulement le frontière qui disparaît. Ça veut dire, on est toujours là.
compris, bien sûr. Mais ce que je pensais, par exemple, si on parlait de la vie passée, de la vie future, bien sûr, on a des descriptions, mais ça, on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai. On n'a pas du choix. On doit juste accepter. C'est facile. Scientifiquement, on ne peut pas dire, on ne peut pas comprendre. Donc, il n'y a pas d'autre chose.
Par contre, ce que j'ai compris, moi, c'est que ce que tu disais au niveau de, quand on veut mourir, le corps veut mourir, notre niveau vibratoire dépendra du stade d'éveil qu'on aura eu dans la vie, enfin dans cette période, dans son cycle. Donc on peut quand même faire des choses. Pour le futur.
Oui, pour le futur, oui.
Donc, soit il y a deux réponses. Pour celui qui a pris conscience dans sa vie, l'unité avec la vie, il n'y a pas la suite. C'est parce que l'arbre a compris que c'est la forêt. Ou la feuille a compris, c'est l'arbre. Donc, pour celui-là, sa conscience n'a pas la nécessité de continuer pour atteindre l'unité. Donc ça, c'est la personne à réaliser. Celui qui n'a pas réalisé, sa conscience n'a pas été évoluée à son dernière possibilité, là, il y a une continuité. Cette continuité est décidée par ses actions. Après, bien sûr, tout le monde n'a pas la disponibilité pour expérimenter la mort, faire des méditations très très poussées pour comprendre que il y a d'autres formes d'existence, tout ça, pour comprendre, avoir cette vision pénétrante. Bouddha, il était capable de rappeler 25 de sa vie antérieure. Nous pouvons aussi rappeler d'autres vies. Mais si vous voulez, je continue. Non ? Oui ? Non ? Et dans notre surface de la conscience, c'est en ce moment, nous avons accès que à la surface de la conscience. Là, nous connaissons très peu de choses. C'est là qu'on est en train de poser des questions. Qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais si on plongeait un peu, c'est-à-dire oublier le rationnel, oublier tout ce qu'on avait appris, cette première couche, on peut mettre du côté. Si on descend un petit peu, là, on va rencontrer des choses. Ce n'est pas que des archétypes, mais on va rencontrer toutes les personnes vécues sur Terre. On va rencontrer tout ce qui était fait avant par les autres, à l'intérieur de nous. Et chacun possède à l'intérieur de lui toute l'histoire de l'humanité, l'univers tout entier. Ça, c'est hautement mystique, mais quand on rentre là-dedans, les règles sont plus pareilles. Les vérités ne sont pas pareilles. On va rencontrer Socrate, on va rencontrer Freud, on va rencontrer tous les tyrans du monde. Ils sont tous là. l'intérieur de nous, et aussi toute la souffrance que l'humanité a vécue. On peut aussi rencontrer l'avenir, le futur. On peut avoir une connaissance de trois temps. Un jour, tu disais, le Maitreya Bouddha,
Padmasambhava,
a la connaissance de trois temps. Il est possible d'accéder le passé, le futur, et aussi le présent. C'est un autre niveau de l'intelligence. Ça, c'est ça qui fait, en fait, un être extraordinaire. C'est rare. Ils sont plus une personne. Ils sont peut-être extérieurement, on voit le corps humain, mais ils sont que des principes. Ils sont déjà dépassés, loin, loin de toutes les frontières de l'ego. Oui, l'humanité ou l'être humain a cette capacité d'accéder. Notre cerveau a cette possibilité d'accéder à cet niveau de conscience. C'est une vérité, ça existe. Et là, il y a une question. Compassion. Parce que quand on regarde de ce point de vue-là, l'humanité, on est ému par la situation. Nous regardons en fait 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans en arrière ou avant. On regarde l'humanité. Là, ce que le bouddhiste parle, le Bouddha revient jusqu'au dernier individu atteint l'illumination. Parce que il faut que cette histoire s'arrête quand même. La guérison de l'humanité, il faut qu'un jour, quand même, il faut qu'on s'en sorte de cette situation. Parce que c'est une névrose et transmissible. C'est ça qui est compliqué. Chaque individu qui arrive au monde, immédiatement, il prend tout. Les enfants sont éveillés, mais dans le contexte où ils vivent, ils perdent toute leur spiritualité. Et ça continue. Ça continue depuis très longtemps. Il faut qu'un jour, la guérison doit arriver. C'est aussi notre travail, notre responsabilité de chacun de nous. Si on veut ou pas, nous sommes dans le chemin. Si on est conscient ou pas, nous sommes dans le chemin.